Et merci pour cette introduction, c'est merveilleux. Alors pour ce message de ce matin, je me suis laissé inspirer par une lettre de nouvelles qu'on a reçue il y a quelques temps, il y a quelques semaines. Bon, c'était juste 2-3 lignes que j'ai évidemment développées un peu et gonflées un peu pour en faire un message qui peut, j'espère, nous encourager ce matin. Alors, selon la théorie de l'évolution, donc on veut nous faire croire que l'homme se serait développé à partir d'une petite cellule, à partir de presque rien du tout. Passé par le poisson, par un reptile, peut-être, d'autres animaux, un singe peut-être. Bon, on ne peut pas dire qu'il n'a pas de ressemblance, n'est-ce pas? Et finalement, donc il se sera redressé pour devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. Est tellement redressé que l'homme, en général, d'aujourd'hui, se croit être son propre Dieu, qu'il ne veut plus dépendre de plus rien, et qu'il ne veut plus, donc, prendre ou accepter des décisions d'autres, mais qu'il veut prendre ses propres décisions. Et pourtant, fait remarquer l'auteur de cette lettre, on peut constater aujourd'hui, en observant les hommes marcher dans les rues, peut-être une certaine, comment dire, dévolution, une certaine dégression, quand on les regarde dans les rues, marcher, très souvent courbés comme ça, les yeux figés sur un objet, trébuchant peut-être, heurtant les autres personnes qui marchent dans les rues, les autres usagers des trottoirs. Et donc, il dit à l'homme, tellement qu'il était fier, il commence à se courber le dos, à baisser la tête. Alors que nous, donc ça juste pour un prétexte, pour dire, et nous, en tant que chrétiens, nous avons vraiment beaucoup de raisons pour nous redresser, lever notre tête, lever nos yeux. Et donc, je vais juste citer 3 passages au cours de ce message qui parlent justement de cela. Que nous avons beaucoup de raisons, nous avons de bonnes raisons pour nous redresser et lever nos têtes, lever nos yeux vers l'Éternel, bien sûr, vers l'Éternel, notre Dieu, et son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous avez certainement deviné que je vais commencer avec le psaume 121, et vous avez raison. Là, le psalmiste écrit, « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre, qui ne permettent pas à ton pied de trébucher, qui ne somnole pas celui qui t'écarte. Non, il ne somnole pas, il ne dort pas celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre protectrice, il se tient à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te fera pas mal, pendant la nuit, la lune. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. Un psaume bien connu, mais qui nous rappelle une vérité fondamentale de la vie chrétienne. Nous pouvons être en relation avec notre Créateur. Moi, je peux regarder vers celui qui m'a créé. Moi, je peux donc fixer mes yeux sur celui qui est à l'origine de mon histoire, de ma vie. Et donc ça, c'est quelque chose de précieux. Et selon ce psaume, sans rentrer dans tous les détails, donc ce Créateur, celui qui m'a fait, il prend soin de moi. Et donc voilà, une très bonne raison pour fixer mes yeux, pour regarder vers l'Éternel, le Créateur de toutes choses, mais aussi mon Créateur personnel. Alors ça, c'est quelque chose de très précieux. Donc même si nous utilisons nous aussi, bien sûr, cet objet presque indispensable aujourd'hui, voilà, nous avons ce regard vers celui qui nous a créés, vers celui qui nous a fait, vers celui qui nous connaît comme personne d'autre. Alors, quand vous achetez une nouvelle voiture, vous recevez une documentation, un mode d'emploi, bien sûr, qu'on lit en général quand quelque chose ne marche pas, un carnet d'entretien, voilà, qui est utile pour quand même savoir quand il faut faire quoi, peut-être encore un numéro de dépannage, un numéro d'urgence pour appeler au secours quand il y a quelque chose qui ne marche pas. Et donc, Dieu, il fait encore mieux. Il fait encore mieux, il nous donne un mode d'emploi complet, la parole de Dieu, n'est-ce pas, la Bible, qui nous sert de... Ouais, mode d'emploi, c'est peut-être pas le mot qu'il faut utiliser, mais qui nous aide à marcher dans la voie du Seigneur. C'est en même temps aussi un carnet d'entretien. Bon, carnet, c'est peut-être un peu trop dit, un peu trop peu. Voilà, c'est un livre d'entretien où nous pouvons voir aussi, mais comment nous pouvons fonctionner, comment nous pouvons marcher, comment nous pouvons réussir dans notre vie, comment nous pouvons donc, oui, avancer dans notre vie selon les idées de notre Créateur. Il y a même un numéro d'urgence, je ne sais pas si vous le connaissez, le numéro d'urgence de la Bible. Est-ce que vous avez une idée?
316.
Voilà, par exemple, vous voyez, il a différents versets. Alors, il a le 333. Le 333 selon Jérémie. Voilà, donc il y a un verset là. Bon, je l'ai noté ici, donc je vais le lire là. « Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des choses secrètes, des choses que tu ne connais pas. » Donc voilà, un numéro d'urgence que nous pouvons toujours utiliser, qui est toujours aussi, disons, qui n'est jamais occupé, je veux dire, et où Dieu est toujours à l'écoute. La prière, conjuguée, bien sûr, avec la confiance en un Dieu génial, en un Dieu tout-puissant, plein d'amour et de compassion pour sa créature, pour sa création, pour ses créatures, pour donc chacun qui veut bien s'adresser à lui et lui faire confiance, placer sa confiance en lui. Et dans la parole, nous avons énormément d'exemples qui parlent de ces soins qu'il prend de son peuple. Alors, je lis juste quelques versets dans Ésaïe 43, un passage où Dieu s'adresse à Israël, qu'il appelle aussi Jacob, donc selon un des ancêtres d'Israël. « Maintenant, voici ce que dit l'Éternel. Celui qui t'a créé Jacob, celui qui t'a façonné Israël, n'aie pas peur. » Ah, ça fait déjà pas mal, ça fait déjà du bien, n'est-ce pas? « N'aie pas peur, car je t'ai racheté. » Je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Si tu traverses les eaux, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te fera pas de mal. En effet, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Alors, ça fait de belles paroles encourageantes qui nous montrent que Dieu, il veut nous accompagner. Donc, ce n'est pas seulement un carnet d'entretien, un carnet de dépannage, un numéro de secours, c'est beaucoup mieux. C'est un accompagnement personnalisé que Dieu nous propose. Nous avons d'autres témoignages, bien sûr, dans la parole. Si nous lisons, par exemple, les psaumes 105 à 107, alors, il a tout un accompagnement que Dieu propose au peuple d'Israël. Bon, c'est plutôt les témoignages de cet accompagnement. Comment Dieu les a secourus dans le désert. malgré eux, malgré Israël, malgré ces hommes et ces femmes qui étaient tellement têtus dans le désert et qui ont fait n'importe quoi parfois, Dieu les rappelle. Je vous ai accompagnés, je vous ai sauvés, j'ai évité les dangers, j'ai enlevé des obstacles, j'ai fait ceci, j'ai fait cela pour vous aider, je vous ai parlé, je vous ai appelé, je vous ai nourri, et ainsi de suite. Tout ce qu'il rappelle pour cette marche dans le désert. Mais cette même marche est aussi, ou ce même accompagnement, c'est aussi valable pour nous aujourd'hui. Et je suis sûr que plusieurs pourraient donc nous donner un témoignage aujourd'hui, comment Dieu les a secourus, comment Dieu les a accompagnés, comment Dieu les a encouragés. Et voilà, nous avons encore d'autres exemples dans la Bible, bien sûr, qui en parlent aussi, parce que ça ne marchait pas toujours très bien non plus. Nous savons très bien que la marche avec Dieu, ce n'est pas toujours un chemin facile qui va droit, mais il a pas mal de virages, il a pas mal de difficultés. Alors si nous lisons par exemple les Actes des Apôtres, donc là, nous avons des témoignages très puissants de cette aide que Dieu a accordée aux premiers chrétiens. Mais Dieu n'a pas empêché que Étienne soit lapidé, que Jacques soit tué, que Pierre soit emprisonné, bon, contrairement à Jacques, lui, il était libéré après par un ange. Que la plupart des chrétiens de l'époque étaient persécutés, beaucoup lapidés. On parle aussi de l'apôtre Paul, qui lui aussi, il était persécuté, il était lapidé lui aussi, mais il a survécu heureusement. Et il a aussi fait naufrage et plein d'autres choses. Mais dans tout cela, nous apprenons que Dieu les a soutenus, que Dieu les a relevés, que Dieu les a encouragés, réchauffés, guéris. Et quelques-uns, il les a aussi accompagnés dans la mort, dans la vallée de la mort, comme David le dit dans le psaume 23. Un accompagnement personnalisé jusque dans la vallée de la mort. Ça, c'est donc ce Créateur qui vous a créé, toi et moi, et qui veut nous accompagner, qui veut nous aider, qui veut donc, oui, qui veut qu'on puisse réussir notre vie en tant que chrétien. Peut-être pas forcément selon mes idées personnelles, mais selon les idées de Dieu, selon les projets qu'il a prévus pour chacun de nous. Je lève mes yeux vers les montagnes, vers celui qui les a créés, vers celui qui a créé l'univers, parce que lui, il est capable de me soutenir, de m'aider, de m'accompagner. Un autre passage est peut-être un peu plus compliqué dans Hébreux chapitre 12. Alors, l'auteur de cette lettre que nous ne connaissons pas, il a fait toute une liste des héros de la foi, comme nous les appelons dans le chapitre 11. Commençons déjà par Abel, par Enoch, par Abraham, par Sarah, par Jacob, Isaac, Jacob, et aussi d'autres personnes de l'Ancien Testament. Et à la fin, ils ne les nomment même plus par leur nom, parce qu'il en a tellement. Il dit, voilà, ces personnes, ils avaient la foi. Ils ont regardé vers Dieu, ils ont regardé vers le but, ils sont avancés avec l'aide de Dieu dans leur vie, parfois très difficile, parfois très compliqué, parfois ils étaient aussi têtus que, voilà, comme nous aujourd'hui, comme les Israélites aussi dans le désert. Mais Dieu, il les a accompagnés parce qu'ils ont placé leur confiance, leur foi en lui. Parce qu'ils ont regardé vers lui, vers leur Créateur, parce qu'ils ont regardé vers celui qui les a, qui, oui, qui leur a donné plein de promesses pour donc les conduire vers un but qu'il avait prévu, que Dieu avait prévu pour eux. Et maintenant, dans le chapitre 12 et le premier verset, nous lisons ceci. « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courant avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » Et ensuite il dit, et je vais relever ce verset, « Faisons-le en gardant le regard sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert à la croix, en méprisant la honte qui s'y attachait, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. » Alors on pourrait dire beaucoup de choses à partir de ces trois versets. Je vais juste relever donc le verset 2 en particulier. Faisons-le, donc, courons, marchons dans notre vie de chrétien, courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, ou en gardant les yeux fixés sur Jésus, selon d'autres traductions. Puisque, il le précise bien ici, c'est lui qui a fait naître notre foi. C'est lui qui est à l'origine de notre foi. Ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu, c'est lui qui nous a choisis, comme Jésus le dit plus tard, ou plutôt, voilà, puisque nous sommes bien après la résurrection de Jésus, dans cette lettre aux Hébreux. Ou bien, une autre traduction dit ici, « Gardons les yeux fixés sur Jésus, parce qu'il nous a ouvert le chemin de la foi. » Ou qui a suscité la foi. Ou bien, encore un peu plus tôt, dans Hébreux, on lit qu'il est l'auteur du salut ou d'un salut éternel. L'auteur d'un salut éternel. Et donc, effectivement, si nous regardons les choses de telle façon, nous avons de bonnes raisons pour regarder vers Jésus, pour garder les yeux fixés sur Jésus, puisque c'est lui qui a tout accompli. Hein, c'est ce qu'il a dit sur la croix. Tout est accompli. Et il nous a donné sa vie. Il a sacrifié sa vie pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions être dans la foi, pour que nous puissions être en relation avec lui, avec le Père, avec notre Créateur. Regardons vers lui pour le salut, parce que c'est lui qui est à l'origine de notre foi, c'est lui qui nous a ouvert le chemin, comme Hébreux le dit à plusieurs fois, qui a suscité la foi, parce que c'est lui qui est l'auteur d'un salut éternel. Donc c'est auprès de lui que nous trouvons pardon, que nous trouvons grâce, que nous trouvons miséricorde. C'est auprès de lui que nous pouvons trouver ce salut dont nous avons tellement besoin. Puisque tel que nous sommes, nous ne pouvons pas rentrer en relation avec Dieu le Père. Nous avons besoin de ce sacrifice de Jésus, du pardon. Et il dit bien, l'apôtre Paul le dit à Timothée, l'écrit, qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Et donc, il veut que nous fassions ce pas de foi pour recevoir ce salut qu'il nous a donc acquis sur la croix. Il n'y a pas de salut en aucun autre, il n'a de salut en aucun autre, car il n'a sous le ciel aucun autre nom qu'il a été donné parmi les hommes, par lequel nous devrons être sauvés. Ça, c'est un des messages de Pierre, quand il s'était justement arrêté au début des Actes, c'est dans Actes 4, le verset 12. Il n'a de salut en aucun autre. Donc ne nous trompons pas. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Il n'y a que Jésus. Et donc, fixons nos regards vers Jésus pour ce salut éternel, parce que c'est lui qui est l'auteur, qui a l'origine, celui qui a tout accompli pour ce salut. Mais encore, il continue dans ce même verset. Donc, gardons les yeux fixés sur Jésus. Pourquoi? Parce que lui aussi, il mène. Il mène notre foi à la perfection. Donc, ce n'est pas seulement le début de notre chemin avec le Seigneur, c'est aussi la suite. Il la porte à la perfection selon la traduction du Seigneur. Et donc, là nous avons quelque chose de précis encore et qui revient un peu au carnet d'entretien. Donc, ce Jésus, il veut nous accompagner. Paul écrit dans une de ses dernières lettres, Philippiens, chapitre 1, le verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, en parlant de la foi, en parlant de la conversion des Philippiens, donc il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme et jusqu'au jour du Christ. » Jésus, celui qui a suscité la foi. Jésus, celui qui veut nous porter, qui veut nous accompagner jusqu'au bout. Il veut notre salut, mais il est aussi notre soutien. Il va avec nous jusqu'à ce qu'on arrive dans l'éternité, dans sa présence. Ça, c'est quelque chose de précieux. Encore, donc, cette idée d'un accompagnement personnalisé qui va jusqu'au bout, et donc ça c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Alors, d'autres raisons pour garder nos yeux fixés sur Jésus, fixés sur notre Dieu, sur le Père, sur l'Éternel, sur Jésus le Sauveur et Seigneur. Jésus, dans l'évangile de Luc, il parle encore de quelque chose de différent. Dans l'évangile de Luc et le chapitre 21, il parle, comme vous le savez certainement, comme dans Matthieu 24 et 25, des événements qui vont précéder son retour. Donc, il parle des événements qui vont se produire dans ce monde, en parlant des famines, des guerres, des tremblements de terre. Voilà, on voit toute cette liste encore beaucoup mieux dans l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 24. Et après avoir énuméré des événements, il dit, et donc, quand tout est accompli, moi, je reviendrai, le Fils de l'homme va revenir. Et il dit après, dans le chapitre 21 et le verset 28, et quand ces événements, donc ces événements dont il a parlé, commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. Par cela, il voulait encourager, bien sûr, ceux qui écoutaient, les disciples qui ont posé les questions et ceux qui étaient autour. Mais donc, il nous dit à nous aussi, quand vous voyez des choses de ce genre-là, on entend parfois, malheureusement, on parle de ces attentats. Il a des guerres, il a de nouvelles guerres, il a des hostilités, il a des difficultés partout. Je ne sais pas si c'est vraiment le début de ces événements dont il parle ici. Parfois, oui, quand il y a quelque chose qui se passe, on se dit avec ma femme aussi, voilà, on s'approche encore d'un pas plus du retour du Seigneur. Et Jésus nous dit, quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. Il n'a donc pas lieu d'avoir peur. Bien sûr, il y a des choses qui nous font peur, qui sont terribles, qu'on ne voudrait pas qu'il se passe. Mais Jésus dit, vous n'avez pas à avoir peur. Comme il avait dit aussi dans Ésaïe, n'ayez pas peur. Comme Jésus l'a dit à plusieurs reprises dans les évangiles, n'ayez pas peur. Ne soyez pas inquiets. Même si vous êtes dans la tristesse, même si ces événements peut-être vous ébranlent un peu, vous inquiètent quand même un peu, mais soyez pas inquiets au-delà de tout, puisque quand ces événements commencent à se produire, redressez-vous, levez-vous vos têtes, regardez sur Jésus, regardez sur l'Éternel votre Dieu, parce que votre délivrance est proche. Et donc là, Jésus voulait certainement parler de cette espérance qu'il nous donne au-delà de toute chose, au-delà de notre vie, au-delà de tous les événements qui peuvent se produire dans ce monde, au-delà de tout ce qui peut nous arriver dans notre vie de tous les jours, que ce soit des maladies, que ce soit simplement des choses que nous ne voudrions pas qu'il se passe, des difficultés dans la famille, dans des couples, dans mon travail, partout. Il voudrait nous donner cette espérance au-delà de toute chose. Et j'aimerais encore vous lire un passage dans 1 Pierre qui justement parle de cette espérance qu'il veut nous donner. Même si c'est une espérance pour l'avenir, pour l'au-delà, voilà. Donc cette espérance peut nous encourager pour la vie présente. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. Pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Alors, quelle espérance formidable, une espérance vivante, une espérance sûre grâce à la résurrection de Jésus. Parce que lui, il a surmonté la mort. Et donc, aussi grâce à notre résurrection, parce que si nous sommes avec lui, si nous sommes dans la foi avec lui, si nous sommes sauvés, si nous sommes ses enfants, donc nous avons à notre tour cette résurrection assurée grâce à Jésus. Un héritage incorruptible, assuré, qui ne peut pas se détruire. Encore un gage, le Saint-Esprit, Paul en parle aussi dans Romains et dans Éphésiens. Il dit aussi que nous sommes hérités de Dieu, ou bien co-héritiers de Jésus, selon Romains, et que nous avons le droit de citer dans le ciel, selon un autre verset que je vais vous lire encore, dans Philippiens 3, 20. Quant à nous, notre droit de citer dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Merveilleux, n'est-ce pas? Alors de quoi relever nos têtes et de nous redresser, parce que nous avons toutes ces promesses pour toute l'éternité, qui doivent nous encourager aussi à supporter les difficultés de la vie présente. Donc, pas peur des événements. Même si les événements parfois ne sont pas tellement réjouissants, surtout si cela nous touche personnellement. Mais nous savons que nous verrons l'accomplissement de toutes ces promesses que Dieu nous a donné, ce que j'ai lu, encore beaucoup plus, bien sûr, dans la parole. Nous savons que tout va s'accomplir, ces promesses, parce que c'est une espérance vivante, garantie par le sacrifice de Jésus, garantie par Dieu, le Père, et Jésus qui est à sa droite. Alors, nous avons lu Hébreux 12, juste à côté dans Hébreux 11, donc dans ce chapitre, nous avons un témoignage encore des patriarches qui ont vécu il y a, est-ce que c'est maintenant 3-4 000 ans. Et en parlant d'Abraham, Isaac, Jacob, il dit, surtout d'Abraham, Abraham attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis. Mais ils les ont vus et salués de loin. Ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur terre. Avec un formidable mot d'emploi, carnet d'entretien, un accompagnement personnalisé selon nos besoins, selon notre personne, selon ce que Dieu voudrait que nous accomplissions. Alors là, nous avons beaucoup de raisons pour relever nos têtes, n'est-ce pas? Pour fixer nos yeux sur Dieu, sur l'Éternel, sur Jésus, celui qui a tout créé, celui qui a tout donné, celui qui soutient tout et qui accomplira sans faille toutes ses promesses. Pour terminer, je lis simplement trois versets de la lettre que Jude a écrite. Cette lettre est tout au bout de la Bible, juste avant l'Apocalypse, où il exhorte « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant le jour où la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ sera manifestée pour la vie éternelle. » Et il rajoute à la fin « À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, oui, à Dieu seul sage, qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, appartiennent gloire, majesté, force et puissance avant tous les temps, maintenant et pour l'éternité. Amen. » J'aimerais encore prier. Seigneur, j'aimerais te remercier pour ces promesses, pour ces encouragements, pour ces versets qui nous disent, oui, nous qui t'appartenons, nous qui sommes ton peuple, nous pouvons lever nos yeux vers toi. Toi qui es notre Créateur, qui a tout fait, mais qui nous a fait aussi, et qui nous connaît. Nous pouvons lever nos yeux vers toi pour recevoir du secours au moment important, au moment où nous avons besoin de l'aide, de l'encouragement, la consolation, où nous avons besoin de toi pour avancer encore un pas, pour faire le prochain pas, Seigneur. J'aimerais te louer, Seigneur, que tu es un Dieu génial, un Dieu tout-puissant, mais qui est à notre disposition pour nous aider. Et la preuve, c'est que tu nous as donné le Seigneur Jésus. Et Seigneur Jésus, j'aimerais te louer parce que tu as donné ta vie, tu as sacrifié ta vie sur la croix, parce que tu voulais que nous puissions rentrer en relation avec le Père, que nous puissions être sauvés, pardonné, purifié, par grâce, parce que nous avons mérité rien du tout, mais parce que tu voulais que nous soyons sauvés et que tu voulais que nous soyons en communion avec toi. Et Seigneur, j'aimerais te louer aussi parce que tu nous donnes une formidable espérance vivante, sûre. Tu nous donnes des promesses qui vont s'accomplir parce que tu les garantis. Merci Seigneur. Merci pour toutes les promesses que tu as déjà accomplies, qui sont aussi en quelque sorte un gage pour les promesses que tu vas encore accomplir dans l'avenir, dans la vie de chacun de nous et pour l'Église, mais aussi pour l'ensemble de ce monde où nous vivons. Nous voulons te louer, Seigneur, que nous pouvons nous redresser. Lever nos têtes, lever nos yeux, fixer nos yeux sur toi. Nous voulons te dire merci, t'adorer, te louer pour cela. Amen.